Vous écoutez France Culture.
Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec aujourd'hui Gilles Gaillard à la technique et préparés par Camille Lugan, Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez comme tous les jours à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins et qui vous parlera aujourd'hui de Derrida. Mais en ce qui nous concerne, c'est la suite et le milieu ce mercredi d'une semaine sur Roland Barthes dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après avoir évoqué les mythologies et les cours au Collège de France, sur lesquels nous reviendrons l'un et l'autre, c'est de l'antimodernisme de Barthes qu'il sera question aujourd'hui, antimodernisme ou antimodernité, on verra, en compagnie du professeur au Collège de France Antoine Compagnon, dont l'excellent livre sur les antimodernes, paru chez Gallimard, s'achève sur un article étonnant, un article sur Roland Barthes, où contre toute attente, on découvre que Barthes lui-même était antimoderne.
Il m'est très difficile, disons d'une façon authentique, d'adhérer à des positions arrêtées de type révolutionnaire, par exemple. Je n'éviterai jamais d'être pris dans un certain circuit de récupération, n'est-ce pas ? À partir du moment où on écrit, on joue le jeu, on veut être publié, on veut être lu, et par conséquent, on est pris effectivement dans un certain circuit de récupération. Ce qu'on écrit peut devenir le sujet d'un concours de CAPES ou d'agrégation. Enfin, je veux dire, on est pris évidemment dans des systèmes de pouvoir.
On est cité.
Est-ce qu'il y a toujours une forme d'ironie possible à l'égard de cette forme de pouvoir insidieux?
Oui, alors moi je préférais même un mot presque plus subtil que l'ironie, mais vous me direz que je m'éloigne là vraiment de toute efficacité. Mais je dirais, il est toujours possible d'avoir une forme de sourire, n'est-ce pas ? Je substituerai un peu la notion de sourire à l'idée, à la notion d'ironie. Il y a le sourire et il y a tout de même le déplacement à travers les méandres de la mode, c'est-à-dire que la mode, qui est une forme de pouvoir, là où elle prend, il faut arriver à se déplacer, quitte à perdre un peu des bénéfices de sa propre image, vers le démodé, vers l'inactuel. Par exemple, on peut avoir toute une technique de présence intellectuelle au monde qui tout de même travaille sans violence, sans provocation, mais sûrement dans la mise au jour de l'inactuel, de ce que Nietzsche aurait appelé l'intempestif.
Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue de nouveau au nouveau chemin de la connaissance. C'est une joie de vous accueillir pour y parler de nouveau de ce livre dont j'ai dit qu'il était excellent, Les Antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, paru dans la NRF, donc chez Gallimard. Alors, dans ce livre, Antoine Compagnon, vous consacrez une série de monographies sur un certain nombre de figures de l'antimodernité ou de l'antimodernisme, dont un chapitre qui a pu surprendre, qui est un chapitre sur Roland Barthes en Saint-Polycarpe, dans lequel vous le présentez comme un antimoderne. Alors, ça peut surprendre quand on ne connaît pas Roland Barthes, c'est-à-dire quand on n'a de Roland Barthes que des idées reçues. Et en même temps, quand on vous lit, d'abord, on est convaincu. Et à vrai dire, quand on travaille sur Barthes, qui est le cas de l'équipe des chemins pour les besoins de cette semaine, on irait presque plus loin que vous. C'est-à-dire que dans ce chapitre, vous pointez notamment, en son début en tout cas, le fait que Barthes devient anti-moderne au moment des cours au Collège de France, c'est-à-dire à la toute fin, entre 76 et 80. Or, on a le sentiment qu'au fond, Barthes, parce qu'il est seul de son camp, parce qu'il refuse le pouvoir, parce qu'il se méfie de la métamorphose d'un discours marginal en discours de pouvoir, qu'au fond, Barthes est anti-moderne depuis les mythologies, c'est-à-dire depuis 1957. Est-ce que cette hypothèse est recevable pour vous ?
Écoutez, oui, c'est un petit peu celle que je fais. Je crois quand même qu'il y a eu un moment des années 50 où Barthes a été très marqué par le matérialisme historique, par le marxisme.
Il était marxiste, oui.
Par Brecht. Et qu'à ce moment-là, il était en phase avec une certaine idéologie progressiste. Alors moi, je le qualifie d'anti-moderne. À mes yeux, c'était une qualité, c'était un compliment. Mais il est vrai qu'un certain nombre de lecteurs de ce livre, quand il a été publié il y a près de 5 ans, ont trouvé que cette qualification d'anti-moderne était sacrilège, blasphématoire. Pour celui en qui il voyait un héros de la modernité. Pour moi, je le mettais au contraire dans une grande série qui allait de Baudelaire, de Chateaubriand, jusqu'à Gracq ou Pollan. Et je le voyais donc plutôt dans un panthéon de ceux qui n'avaient pas été dupes.
Alors, vous parlez de Pollan, hein, dans ce long chapitre sur Roland Barthes. Vous opposez un moment la figure de Barthes et la figure de Pollan comme Pollan le réactionnaire face à Barthes le marxiste, pour dire qu'au fond, ils ne sont pas si opposés ou opposables l'un à l'autre, précisément. Il faut revenir d'ailleurs un peu sur qui était Pollan, hein, pour nos auditeurs, allez-y.
Pollan était le directeur de la NRF pendant une bonne partie de l'entre-deux-guerres et le refondateur de la NRF dans les années 50. Alors évidemment, Pollan traite Barthes de marxiste à propos des mythologies et Barthes réplique en le traitant de réactionnaire. Ces deux hommes ne se sont pas rencontrés et pourtant, me semble-t-il, il y avait en effet des positions assez semblables sur le langage, sur la rhétorique, sur le retour de la rhétorique, l'importance du renouveau de la rhétorique, mais ils appartenaient dans les années 50 très clairement à deux camps politiques différents, Pollan étant à la fois très anticommuniste dans cette période-là, gaulliste à partir de 58, à un moment partisan de l'Algérie française. Évidemment, Barthes n'était pas du tout sur ses positions. Donc, il traitait cette nouvelle NRF de Pollan d'institution totalement réactionnaire.
Monsieur Barthes est bien vu de la société bourgeoise qui lui donne, sauf erreur, des subventions. Il sera dans 15 ans, suivant toute vraisemblance, ministre de l'Éducation nationale. Il ne sera pas un mauvais ministre, mais qu'il ne vienne pas nous la faire à la persécution, ce serait d'un goût douteux. C'est Pollan qui dit ça. Alors, c'est à la fois bien et mal vu dans la mesure où Barthes, évidemment, ne s'apprêtait pas et n'a jamais été, évidemment, ministre de l'Éducation nationale, ni même concerné par cette question. Mais là où c'est bien vu, c'est qu'il pointe, peut-être moins chez Barthes, que chez ceux qui le suivaient, une forme de un refus de la société bourgeoise dont la société bourgeoise elle-même profite, bénéficie, qu'elle intègre au titre de sa contradiction légitime.
Alors cette pique de Pollan, sous le pseudonyme de Jean Guérin, hein, faut-il ajouter, est en effet assez désagréable, surtout que c'est un moment où Barthes tirait le diable par la queue. Au début des années 50, il était vaguement au CNRS, mais il était très loin d'être ministre de l'Éducation nationale. En même temps, il y avait là une sorte de polémique privée-publique. Le modèle de l'intellectuel à la Pollan était encore celui de l'entre-deux-guerres, ou à la Sartre, ou à la Camus, qui n'émargeait pas à l'Éducation nationale ou à la périphérie de l'Éducation nationale. Il y avait certainement cela là derrière. Et pourtant, Pollan, je crois, voyait bien qu'il y avait là Bon, Barthes, évidemment, n'est jamais devenu ministre, mais dans la conversation qu'on vient d'entendre, il évoquait ce qu'il appelait la récupération. Récupération par l'éducation nationale. On fait de moi des sujets de concours, et on peut dire aussi qu'il y a eu une certaine récupération pédagogique de tout ce mouvement de la nouvelle critique et de la théorie littéraire lancé par Roland Barthes, qui est devenu, d'une certaine façon, dans les années 70, la doctrine officielle de l'éducation nationale.
Au fond, plus que marxiste, parce que même dans les mythologies, quand Roland Barthes, par exemple, alors il y a un chapitre dans lequel il prend la défense d'Henri Lefebvre, marxiste, j'allais dire de stricte obédience. Alors on pourrait considérer que ce chapitre des mythologies est un aveu de marxisme du Roland Barthes des années 50. Et dans le même temps, Barthes cite par exemple Madame Verdurin, hein, enfin les salons Verdurin, il se sert de Proust déjà, et il s'en sert, l'article qu'il consacre à Lefebvre vaut moins pour la défense et illustration des propos de Lefebvre, dont il dit que c'est lui qui comprend ceux qui ne le comprennent pas, que pour la critique d'une position qui, je dois dire, est une position très fréquente, aussi désagréable que fréquente et répandue partout, qui est la position de celui qui dit « je comprends pas ce que vous dites », c'est-à-dire la position d'autorité de l'ignorant. Celui qui dit que celui qui se croit, ce sont les termes de Barthes, d'une intelligence assez sûre, pour que l'aveu d'une incompréhension mette en cause la clarté de l'auteur et non celle de son propre cerveau. En somme, c'est le professeur qui dit à l'élève « je comprends rien à ce que vous dites ».
Alors, évidemment, c'est un type de figure, de style que Paulhan lui-même aurait pu étudier.
Précisément.
Hein, dans ses petites analyses rhétoriques, qu'on n'appelait pas encore sémiologiques, des situations de discours. Et Barthes est très sensible à ce langage indirect, l'indirection du langage, celui qui dit « je ne comprends pas », pour faire entendre « il n'y a rien à comprendre ». Et il repère cette figure dans la critique bourgeoise, la critique des revues littéraires à l'égard d'une littérature nouvelle. Évidemment, c'est une critique que l'on connaît depuis le 19e siècle.
Puis c'est une figure qu'on peut repérer également dans les critiques de cette critique.
Et qu'on peut repérer, effectivement, dont Barthes lui-même a souffert, hein, puisqu'il en reparlera au moment où il sera attaqué par Raymond Picard, à la suite de son Sur-Racine, il retrouvera contre lui cette figure du « je ne comprends pas » comme position d'autorité pour faire comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Et donc pour discréditer l'autre. Hein, c'est un « je ne comprends pas » qui discrédite. Alors il est vrai qu'à la fin de cet article, Barthes dit qu'en vérité, c'est Lefebvre qui a le système qui permet de tout comprendre, à savoir le matérialisme historique. Mais en passant, et ça montre bien une certaine ambiguïté de Barthes, Barthes n'est pas un esprit systématique. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est non pas cette rédemption de Lefebvre ou du marxisme, mais le repérage de cette figure rhétorique de la critique.
Et l'antisystématisme de Barthes, et on va entendre Barthes lui-même justement se méfier du danger d'être récupéré et expliquer comment, pour ne pas être récupéré, il faut savoir se désavouer soi-même.
C'est une position intenable dans la durée, c'est pour ça qu'il faut toujours la remettre en cause. Il faut toujours en quelque sorte se désavouer, je dirais, ou se renier, ou abjurer, dans la mesure où très vite, ce qu'on affirme comme se plaçant hors du pouvoir est récupéré d'une certaine façon par un certain pouvoir. Soit par le pouvoir majeur de l'État, soit même par le pouvoir du discours, du langage, de la maîtrise. Donc il n'y a pas d'autre issue que de sans cesse se remettre en cause.
Au fond, Antoine Compagnon, la position intenable pour Roland Barthes, c'est la position de combattre le pouvoir. Mais combattre le pouvoir de façon systématique, c'est produire un effet de pouvoir, c'est s'interdire de se renier soi-même. Cette position rappelle, alors selon des modalités différentes, en un sens, d'une certaine manière, paradoxalement, la position de Camus sur l'homme révolté, où le maintien de la révolte impose de se méfier des révolutions. Ou la position foucauldienne, où combattre combattre le pouvoir impose de ne pas se constituer soi-même en pouvoir. Qu'en dites-vous ?
La crainte de Barthes, c'était d'être casé, d'être repéré. Il y a une volonté d'atopie. Et,
atopie, c'est l'absence de lieu.
De lieu. Donc, immédiatement, dès qu'une position est occupée, il importe de se déplacer pour ne pas être figé, pour ne pas prendre le pouvoir. Et en effet, s'il y a une certaine résistance au moderne, au modernisme, c'est au modernisme en tant que conquête de pouvoir, en tant que conquête de place. Et c'est pourquoi, au bout d'un moment, Barthes est toujours obligé de désavouer ses amis ou de se désavouer lui-même. C'est pourquoi aussi, me semble-t-il, être fidèle à Barthes, comme je crois que je suis, ce n'est pas nécessairement reproduire à l'identique le discours qui a été le sien à tel ou tel moment, puisqu'il n'a jamais cessé de bouger.
Alors, il n'a jamais cessé de bouger. En d'autres termes, l'épisode marxiste de Roland Barthes, direz-vous, c'est un effet de surface, c'est un tribut barthésien à la mode de son temps. Est-ce que finalement, c'est le Barthes qui aujourd'hui serait démodé et il faudrait peut-être enlever comme le vernis de son discours ou comme la surface de son discours, ce qui relève, ce qui paye, j'allais dire presque un impôt révolutionnaire aux années 50.
Mais il y a eu d'autres impôts par la suite. Il y a eu l'impôt structuraliste. Il y a eu des moments d'engouement pour une explication systématique, hein, qui est le moment du marxisme ou du brechtisme, et puis le moment du structuralisme. Mais je crois que Barthes explique assez bien cela, comme il y a des moments où il est opportun, où il est expédient de faire alliance. Et je crois que ce sont des alliances pleinement délibérées et pleinement comprise comme telle. Peut-être que dans les années 50, dans ce moment des années 50 ou l'autre moment des années 60, il était juste de faire ce type d'alliance et de compagnonnage de route.
Juste en termes de stratégie ?
Juste en termes de stratégie, oui. Oui,
allez-y, oui.
Dans les années 50, contre une certaine littérature ou théâtre qu'il qualifiait de bourgeois, c'est l'époque des mythologies. C'est à l'époque des mythologies qu'il était donc contre une certaine doxa. Petite bourgeoise, il pouvait être opportun de faire alliance avec ce qui permettait de la dénoncer.
Jusqu'au jour où les petits bourgeois de la décennie d'après ou de plus tard deviennent, ou plus exactement jusqu'au jour où les iconoclastes ou les sémioclastes des mythologies deviennent les petits bourgeois des décennies qui suivent.
Et alors là, il y a effectivement un moment troublant pour Roland Barthes, c'est celui où, en somme, les mythologies se déplacent de droite à gauche. Au fond, dans les mythologies des années 50 ou début des années 50, ce à quoi il peut s'en prendre, ce sont des mythes de droite. Et dans les années 70, Barthes constate, et c'est au moment de cette chronique du Nouvel Observateur, hein, de 78 ou 79, dont le projet... Et ça, je m'en souviens très bien.
Le projet
était de refaire les mythologies en prenant pour cible une doxa, une opinion commune, une idéologie qui n'était plus la même et qui était, dominante à gauche. On ne parlait pas encore de bobo, mais c'était déjà une certaine gauche bobo à laquelle Barthes s'en prenait.
La démystification qui était celle des années 50 était devenue idéologie entre-temps.
Oui, exactement. Mais malheureusement, dans le Nouvel Observateur, ça n'a pas tellement pris et Barthes n'était pas très heureux de cet épisode. Mais il était devenu opportun, à ce moment-là, de s'en prendre à cette cible. Donc je crois que Barthes était quand même politique. Il savait à quel moment il était judicieux de faire alliance. Et on le voit bien. Enfin, la manière dont Barthes a défendu Robe-Grillet à un certain moment dans Critique, tel qu'elle, à un autre moment, est Solers, sans adhérer jamais totalement ni à la littérature que produisait Rebourrier, ni à celle qui a été produite par telle qu'elle, avec un droit de regard sur ce qui se faisait.
Mais derrière ce que vous dites, de ces stratégies qui font l'histoire, la légende également de Roland Barthes, il y a quand même la question de savoir, question fondamentale de savoir, question que chacun peut se poser d'ailleurs. Comment faire pour être seul de son camp sans passer pour un opportuniste qui retourne sa veste ? Antoine Compagnon.
Je crois que Barthes a une ligne qui est celle de son œuvre. Barthes était un écrivain.
Mais est-ce que cette œuvre se contredit ? Lui qui dit qu'il faut se désavouer tout le temps, est-ce que entre le degré zéro de l'écriture et les derniers cours au Collège de France, on repère, j'allais dire, presque des... Est-ce qu'il y a des lignes de force qui demeurent ? Ou est-ce que les différentes alliances de Roland Barthes coûtent à son œuvre un peu de sa cohérence ?
Je crois qu'il y a une ligne de force très grande, même avant le degré zéro, dans les premiers articles, il y a une ligne de force très grande qui est d'abord la dévotion à la littérature. Et au fond, Barthes n'a jamais désavoué ce qui, dès ses premiers articles, était les écrivains tels Gide ou tels Proust, auxquels il s'intéressait particulièrement. Il y a une très grande fidélité de ce point de vue. Alors, et puis, je crois aussi que dans la dernière période, dans la préparation du roman et les cours du Collège de France, il y a évidemment une très grande liberté qui est acquise et qui lui permet de revenir à une série de ses premières affections sans plus aucun surmoi, sans plus aucune contrainte.
Alors, effectivement, et c'est le moment où, dans votre article, vous parlez, dans votre chapitre, hein, c'est plus qu'un article, naturellement, c'est un très beau chapitre, vous parlez de cet amour, de cette dilection barthésienne pour la poésie, pour le poème, plus exactement, dilection inattendue, comme peut l'être, aux yeux du néophyte, l'antimodernisme de Barthes. Vous avez parlé de Proust, hein, et du rapport de Barthes à Proust, Antoine Compagnon. Je voudrais vous proposer, tout simplement... dans la préparation de cette émission, intuitivement, on s'est dit qu'on aurait besoin de Proust. On a enregistré, Anne Brissier, notre lectrice, a enregistré un certain nombre de textes de Proust, parmi lesquels un extrait, je crois, de La Prisonnière, dans lequel le narrateur parle des demoiselles du téléphone, qu'il appelle les Danaïdes de l'invisible, où l'on a également la quintessence du rapport de Proust, justement, à la modernité qui était celle de son temps, c'est-à-dire, en l'occurrence, du début du XXe siècle. Écoutez ce texte.
Nous sommes comme le personnage du conte, à qui une magicienne, sur le souhait qu'il en exprime, fait apparaître dans une clarté surnaturelle sa grand-mère ou sa fiancée en train de feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout près du spectateur et pourtant très loin, à l'endroit même où elle se trouve réellement. Nous n'avons, pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler, quelquefois un peu trop longtemps, je le veux bien, les vierges vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage et qui sont nos anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes. Les toutes puissantes, par qui les absents surgissent à notre côté sans qu'il soit permis de les apercevoir. Les Danaïdes de l'invisible, qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons. Les ironiques furies, qui au moment que nous murmurions une confidence à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous crient cruellement « J'écoute !» Les servantes toujours irritées du mystère, les ombrageuses prêtresses de l'invisible, les demoiselles du téléphone.
Si tu me téléphones, oh oh ah ah, fais bien attention, oh, 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 que ce ne soit pas ma mère qui prenne la communication, il te faudrait lui expliquer qui tu es, ce que tu fais et depuis combien de temps on se connaît. Si tu me téléphones, oh oh ah ah, malheur m'emplairait là, j'aurais bien des ennuis car je devrais.
Pardonnez-nous, chers auditeurs, Barthe, de son propre aveu, adorait Dalida. C'est donc lui rendre hommage que de la faire entendre.
La situation de tes parents, qu'est-ce que ça peut bien le faire? Tout ça ne les regarde pas. Si moi je t'aime, c'est bien mon affaire. Oh oh, chérie, et c'est pourquoi si tu me téléphones, oh oh, ah, ah, essaye de choisir le jour où mes parents auront plus envie de sortir car s'ils étaient à mes côtés. Comprends-moi. Je ne pourrais pas te dire à quel point je suis folle de toi.
Antoine Compagnon est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, à mi-chemin d'une semaine sur Roland Barthes et de l'antimodernisme ou de l'antimodernité de Roland Barthes que nous parlons aujourd'hui. Considérations à la faveur desquelles on en vient à évoquer la figure de Proust. C'est vous qui en avez parlé d'abord, Antoine Compagnon, et on vient d'entendre ici donc un texte de Proust dans lequel le narrateur prend en charge cet événement de la modernité, qui est cette mise à distance, cette téléphonie, hein, étymologiquement, cette façon de parler à distance. Et on a le sentiment, alors, dans La recherche du temps perdu, que Proust, confronté justement au progrès, qui sont ceux de son époque, s'attache, s'évertue en permanence à faire des objets du progrès, une écriture. Sa façon à lui de construire ses propres mythologies, c'est de transformer le progrès en écriture, de faire des arabesques autour des demoiselles du téléphone, comme si, en reprenant le progrès dans un style, il se vaccinait lui-même contre la dévotion que le progrès peut inspirer. Est-ce que cette démarche n'est pas à l'origine des mythologies du grand lecteur de Proust que fut Roland Barthes, Antoine Compagnon ?
Alors, dans La recherche du temps perdu, il y a effectivement une très forte présence des objets techniques, des objets, alors on a parlé du téléphone, mais les avions sont là, les voitures, tout ce qui est nouveau est très présent dans La recherche du temps perdu. Proust fait dactylographier ses textes, c'est nouveau tout cela. Et il y a cette dimension mythologique qui est donnée à tous ces objets, hein, que ce soit l'avion, la voiture, le téléphone, il y a une sacralisation. Alors, Barthes et le progrès technique, malheureusement, il est disparu avant le téléphone portable, avant l'avènement de l'ordinateur personnel. Je ne sais pas comment il se serait débrouillé avec ces objets techniques. Je ne crois pas que Barthes ait eu une particulière prédilection pour l'objet technique contemporain.
Non, mais pour le commentaire de l'objet technique, peut-être.
Alors, pour quelques-uns, il y a effectivement dans les mythologies quelques... Bon, il y a effectivement la déesse qui est un objet mythologique.
Je précise ici que la déesse, c'est évidemment la voiture. Ça n'est pas le jeu qui ruine les cerveaux de nos têtes blondes. Allez-y. Oui.
C'est la déesse 19. Mais à part ces cas, moi, je n'en vois pas beaucoup de cette curiosité pour la technique contemporaine. Je crois que j'évoque dans ce chapitre, je me souviens très bien de Roland Barthes revenant de New York et prenant le Concorde. Hein, il y a donc une certaine curiosité pour cet objet, mais je ne crois pas qu'il ait jamais écrit sur ce voyage en Concorde en 78 ou 77. Mais au-delà de cela, non, je ne crois pas qu'il y avait le même attachement à l'objet technique que celui qu'on peut rencontrer chez Proust.
Mais une façon peut-être de le métamorphoser dans un style, cette reprise finalement du présent. Quand Barthes parle d'être intempestif au sens où Nietzsche pouvait l'entendre, dans les considérations inactuelles ou considérations intempestives de Nietzsche, Nietzsche décrit le caractère intempestif comme l'aptitude à élever quelqu'un au-dessus de la déficience du temps présent et d'enseigner de nouveau à être simple et honnête dans la pensée et dans la vie. Ce caractère d'être intempestif, cette façon qu'on a de s'élever au-dessus de la déficience du temps présent, est-ce que ça n'est pas, alors plus encore que le marxisme de son époque, l'ambition des mythologies, est-ce que ça n'est pas également ce qui peut-être explique les sombres prédictions de Barthes dans son cours au Collège de France sur la mort de la littérature, la défaite du roman, et cette sacralisation comme un objet antique finalement de l'objet roman?
de l'objet roman et du langage, hein, puisque dans ces derniers cours, s'il y a un élément de nostalgie, cette nostalgie porte sur la défection du langage, la destruction du langage contemporain. Alors c'est pourquoi on peut dire qu'il y a un côté un petit peu passéiste dans le refus de cette évolution de la langue, qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup chez nos contemporains. Mais le poème, enfin, s'il y a tant aussi dans ses cours sur le haïku, c'est comme un élément de rédemption, en effet, de ce qui est en train de disparaître. Grande sensibilité dans ces derniers cours à la disparition de ce qui est sensible dans la langue et qui ne peut être sauvé. Enfin, il faut sauver quelque chose. La littérature a affaire à la mort et au monument. Et bien entendu, tout cela est très lié aux années qui suivent la mort de la mère de Roland Barthes, à laquelle il était profondément attaché et avec laquelle il avait vécu toute sa vie. Et d'une certaine façon, ces derniers cours et ces derniers livres sont tous obsédés par cette volonté de sauver quelque chose de la mort.
Alors, sauver quelque chose de la mort, mais alors on a là peut-être l'ambivalence de son attachement au haïku. Que reconnaît-il au haïku ? Est-ce que le haïku est ce qui sauve ce qui peut l'être ? Ou est-ce que le haïku est ce qui, par sa ténuité, mime en un sens la disparition, la dilution du langage ? Est-ce que le haïku est l'annonce d'une littérature défunte, l'amorce d'une littérature défunte ? Ou est-ce qu'au contraire, le haïku est une reprise du langage, une reprise de la réalité par le langage et finalement peut-être sa planche de salut ?
Je crois qu'il le voit dans ses derniers cours, dans le souci de sa matité, c'est-à-dire le refus de l'hystérie. Ce que l'un des grands démons pour Barthes, c'est cette hystérie. Et la matité, la platitude du haïku, c'est à ses yeux ce qui sauve une réalité qui sans cela disparaîtrait.
Vous parlez de platitude ?
Du haïku, oui.
Pourquoi ?
Matité, platitude, enfin le côté sans aspérité, le côté sans emphase. Hein. Tous ces objets qui sont détestés par Barthes, hein, l'hystérie, l'emphase, l'exagération, toutes ces formes de théâtralité. Hein, n'oublions pas que dans le théâtre même, il veut un théâtre sans théâtralité.
De ce point de vue, d'ailleurs, Barthes, mais les représentations qu'ils s'en font sont différentes, mais de ce point de vue, la démarche de Barthes ressemble un peu à la démarche d'Antonin Artaud sur le théâtre.
Oui, sauf qu'entre Brecht et Artaud, on est quand même un peu aux antipodes de ce qu'on attend.
Mais est-ce que Barthes est resté attaché à Brecht ?
Barthes a renoncé au théâtre. Hein, il y a une période théâtre qui s'achève avec la fin des années 50 et il n'y retourne pas. Il y retourne quasi pas au théâtre dans les années qui suivent. Mais il me semble que ce qu'il a retenu et qui restera toujours de ce moment brechtien, bien c'est le refus de l'illusion, c'est le refus de la duperie, puisque on retrouvera ça dans les articles sur l'effet de réel. Tout l'intérêt qu'il a pour la démarche brechtienne sera déplacé dans la littérature et dans la vie, dans les années qui suivent.
L'écriture intervient comme une sorte de soupape, de libération, qui permet d'imaginer un langage qui, certes, affirme, qui est dans l'assertion, mais qui n'est pas dans le pouvoir, c'est-à-dire qui décolle l'assertion du pouvoir. Alors là, il faudrait entrer dans des démonstrations peut-être un petit peu techniques, un petit peu jargonesques, disons. Je crois que si l'écriture peut avoir ce rôle libérateur, sans prendre le ton libéral de celui qui ne veut pas se mouiller dans le langage, n'est-ce pas ? L'écriture a quelque chose de violent, elle a quelque chose d'affirmatif, et pourtant elle n'est pas, à mon sens, dans le pouvoir, parce que Ce qu'elle affirme toujours, l'écriture, contrairement au discours courant, ce qu'elle affirme toujours, ça n'est pas un signifié, ça n'est pas un sens, mais c'est toujours un signifiant, c'est-à-dire un ensemble de traits pulsionnels ou sémantiques qui sont toujours pris dans la polysémie. Oui. C'est-à-dire que l'écriture reconnaît de droit la pluralité des sens pour ce qu'elle dit, et c'est en cela qu'elle peut être à la fois affirmative et complètement libératoire.
Un petit haïku de Schumann pour ponctuer cette archive de Roland Barthes, dans lequel Roland Barthes présente l'écriture finalement comme, j'allais dire, l'issue des problèmes. L'écriture intervient comme une sorte de soupape, de libération. L'écriture qui permet de résoudre la contradiction, qui permet d'être à la fois dans l'assertion, dans l'affirmation, sans être dans le pouvoir, Antoine Compagnon. On peut, par l'écriture, transcender finalement cette difficulté. Ce débat de Roland Barthes avec lui-même qu'on pointe dans les mythologies, où on se demande s'il est plus marxiste qu'antimoderne, ou déjà anti-moderne à son insu, il y a dans l'écriture une façon de transcender finalement toute forme d'appartenance et d'être dans l'affirmation sans être pour autant dans la soumission à une tutelle, à un ordre, à un pouvoir nouveau.
Il faut ajouter que cette écriture, elle est fragmentaire. Ce qui est commun au
d'où Schumann, haïku, d'ailleurs, hein.
À Schumann, aux Intermezzi, c'est cette notion de fragment vers laquelle Roland Barthes va de plus en plus. Toute son écriture est fragmentaire à partir du Roland Barthes par Roland Barthes, qui marque quand même l'avènement du dernier Barthes. On trouve les amorces de tout ce qu'il fera dans les années qui suivront dans ce recueil autobiographique. Et c'est un recueil de fragments. Et Barthes a trouvé dans le fragment le moyen de casser l'emphase, de casser la discursivité, ce qu'il appelle le nappé, enfin casser la dialectique.
Le nappé, il en parle dans les fiches cuisine de L, oui, c'est ça.
Casser la dialectique, casser tout ce mouvement qui fait du discours un élément d'autorité.
Alors, c'est magnifique, très bien, le fragment, c'est utile pour casser. Oui. Mais en même temps, est-ce que cet amour du fragment, cette fragmentation de son style, cette dilection de Barthes pour le discontinu, ne le prive pas ou n'expliquerait pas l'incapacité qu'il reconnaît lui-même à produire le roman dont il ne cesse de penser la préparation. Vous le citez, hein, le dernier cours de Barthes, hélas, en ce qui me concerne, dit-il, il n'en est pas question, je ne puis sortir aucune œuvre de mon chapeau et de toute évidence sûrement pas ce roman dont j'ai voulu analyser la préparation. Est-ce que finalement Barthes ne paye pas trop cher cette volonté de casser, cet attachement au fragment, cette fragmentation qui lui interdit la continuité narrative et figurative et narrative du romanesque.
Vous avez raison. Dans ce cours sur la préparation du roman, il y a un très long moment sur la forme qui peut être celle de ce roman. Et étant donné que Barthes est dans le refus du continu, il lui devient très difficile d'imaginer un roman qui serait au fond un album. Même le roman de prose, quand il en fait l'éloge, hein, dans cette tierce forme, comme il dit, ce n'est ni un roman ni un essai, mais quelque chose qui tient à la fois du roman et de l'essai. C'est donc un petit peu l'idéal vers lequel il voudrait aller. Il est obligé de reconnaître que le roman de Proust est un roman nappé. Il n'y a pas plus nappé, il n'y a pas plus continu que le roman de Proust.
Et pour fragmenter ce glacis, d'ailleurs, il ne cesse d'en appeler avec Proust à une lecture discontinue de la recherche. Il dit prenez des passages, promenez-vous, baladez-vous. Ce qui est une bonne façon de lire la recherche du temps perdu, d'ailleurs. Mais c'est moins bonne de l'écrire.
Alors, on peut toujours lire, effectivement, un grand roman de manière fragmentaire et discontinue. Il n'empêche que le roman est lié à la forme de la narration. Et la narration, elle est liée à ce que Barthes déteste, alors là on peut dire depuis toujours, hein, qui est le post hoc ergo propter hoc, l'idée que ce qui vient après vient à cause de ce qui a précédé. Donc c'est pour Barthes le dispositif même de cette fausse logique et de cette mauvaise interprétation du monde. Alors comment y échapper dans l'écriture ? Sinon par le fragment, mais le fragment interdit très largement le roman.
Alors le fragment interdit largement le roman, hein, c'est vous qui le dites, la discontinuité ou la discontinuation contrarie l'ambition d'écrire. Et dans le même temps, évidemment, Barthes ne cesse de reconnaître des mérites à la narration. Ce qu'il fait en particulier, parce qu'il y a des synesthésies barthésiennes où il mélange les différents ordres, les différents arts, quand il parle par exemple